السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. La fois dernière, on s'est arrêté à un moment où la nouvelle de la mort de trois personnages importants à la Mecque s'est propagée à Médine, et on a aussi fait une parenthèse sur le l'insulte des morts en islam. Et pour résumer, on a dit que bien évidemment, il est interdit d'insulter les morts, quels qu'ils soient, qu'ils soient musulmans ou non. Certaines exceptions, on les avait données. Aujourd'hui, on continue, on revient sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et toujours à ses débuts de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premières semaines, les premiers jours d'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons à Médine. On sait que la ville de Médine est une ville qui est connue pour avoir une ambiance qui est, entre guillemets, un environnement qui rend malade, à part les gens qui y sont nés, qui ont l'habitude d'y vivre. Je parle pour l'époque, hein, attention. Les gens, quand ils arrivent, donc le professeur sallam, les compagnons, quand ils arrivent, ils tombent malades à Médine. Ils sont touchés par ce qu'on appelle en arabe le waba, pourrait traduire par l'épidémie. Mais en vérité, en arabe, on peut traduire ça par l'épidémie, mais quand on veut distinguer entre une véritable épidémie ou une véritable pandémie, une contagion, on parle de ta'un, pour tout ce qui est les maladies qui se propagent d'un individu à un autre, par une cause ou par une autre, peu importe. Et on parle de waba, quand ça n'a rien à voir avec la contagion, mais ça a à voir avec l'endroit où on se trouve. C'est l'endroit qui rend malade. Et ici, donc en l'occurrence, c'est de ça qu'il s'agit. C'est que l'endroit, l'environnement, l'ambiance de Médine, l'air de Médine, l'eau de Médine, les gens qui n'y sont pas habitués, qui viennent s'y installer, ils tombent malades. On a un hadith qui nous parle de ça dans le Bukhari, qui est authentifié par le Bukhari de son authentique, qui nous est rapporté par Aïcha radiallahu anha. Je vous le cite tout d'abord en arabe et ensuite on l'explique. An Aïcha radiallahu anha qalat: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلع عنه الحمى رفع عقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردا يوما وهل أردا يوما مياها مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في مدها وفي صاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة انتهى الحديث. Donc dans ce hadith, Aïcha radiallahu anha nous rapporte tout d'abord, elle dit: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر Wa Bilal. Lorsque le prophète sallam est arrivé à Médine, Abu Bakr est tombé malade et Bilal est tombé malade. Abu Bakr et Bilal, radiyallahu anhuma, sont tombés malades. Donc comme je vous l'ai dit, c'était quelque chose de connu. À un tel point que dans une autre version, c'est pas que Abu Bakr et Bilal, lamma qadimna al-Madinata, dans une autre version authentique, on nous dit qadimna al-Madinata wa hiya awba'u ardillah. Nous sommes arrivés à Médine et c'était la cité, la région, la ville la plus malade d'Allah. Celle qu'Allah a rendue la plus malade. C'est-à-dire que c'était quelque chose de connu pour eux. L'endroit qui leur a été choisi pour, comme refuge, c'est un endroit qui rend malade. Et voilà, donc c'est d'autant plus, moins facile que de faire l'émigration alors dans ce cas-là. Que de savoir qu'on va dans un endroit. Et vous vous rappelez quand on avait dit que le Madina, c'est le nom que le professeur Sam lui a donné. Avant, il s'appelait comment ? Yathrib. Et en langue arabe, dans l'étymologie, la racine du mot Yathrib, ça vient de Tathrib, le blâme. C'est-à-dire Yathrib, celle qui blâme. Quand tu viens chez elle, elle te blâme. Mais le professeur Sam, il lui a changé de nom, il l'a rebaptisé Al-Madina, la ville. Sous-entendu, la ville des musulmans, la ville du prophète. Et il l'a rebaptisé aussi Taba wa Taiba, la bonne. La pure. Parce que avant elle était comme ça, mais aujourd'hui, depuis qu'elle a embrassé l'islam, cette ville, elle est devenue la bonne et la pure. Et elle va le devenir d'autant plus à travers les invocations et les doigts que le professeur Sam va faire pour elle. Donc, on nous dit dans l'autre version, قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللَّهِ. Nous sommes arrivés à Médine et c'était la région, la cité la plus malade d'Allah, Azza wa Jal. D'ailleurs, l'historien Ibn Hisham dit Kana waba'u al-Madinati ma'roufan fil jahiliya. L'épidémie, la maladie de Medina était connue, répandue dans la jahiliya. Tout le monde le savait, tout le monde le connaissait, tout le monde savait que Médine, faire attention quand on s'arrête là-bas parce que c'est une ville qui rend malade. Kana waba'uha ma'roufan fil jahiliya. Et c'était tellement connu, écoutez bien, qu'il dit Wakana al-insanu idha dakhalaha. وأراد أن يسلم من وبائها قيل له انهق 10 مرات كما ينهق الحمار حتى تسلم من وبائها. C'était répandu cette information que cette ville rendait malade et on disait les jahili de l'époque ils disaient les gens de l'époque ils disaient pour les gens qui arrivent à Médine ils leur disaient il y avait une prescription médicale superstitieuse surtout. Il faut faire quelque chose et si tu le fais tu seras protégé, immunisé contre la maladie de Médine. C'est quoi ? Il faut braire 10 fois comme un âne. Ils avaient des croyances comme ça, qui sont tirées par les cheveux. Non. Et ça nous est rapporté de manière sûre. Il y a par les historiens, on a même le savant Badawi Shankiti, rien à voir avec le Badawi qu'on connaît nous. Le savant Badawi Shankiti, qui dit dans son livre, il a fait un matin sur les lignées des tribus. Et à un moment, il parle de ça, de cette information, de la réputation de Médine dans la jahiliya qui rendait malade. Et il dit, en parlant des jahilites, wa akhtalaqu at-ta'shira an yu'ashira min an-nahiqi bihiba'i khaybara wa taybatan atihima liyaslama bidhalika at-ta'shiri min wabahima. Donc dans ces deux proses, dans ces deux rimes, il nous dit, اختلقوا التعشير أن يعشرا. Les jahili de l'époque, ils ont inventé le ta'shir. Ils ont inventé le ta'shir, c'est le dixième. C'est-à-dire, ils ont inventé qu'il fallait faire 10 fois quelque chose. 10 fois quoi ? 10 fois, il faut braire comme un âne 10 fois pour se protéger et s'immuniser contre la maladie de Médine. Donc il dit اختلقوا التعشير أن يعشرا. Donc ils ont inventé ce dixième, donc il fallait 10 fois minan nahiqi bi hida i khaybara. Il fallait 10 fois brer bi hida i khaybara lorsqu'on se trouvait à proximité de Khaybar. Khaybar, c'est bien au nord de Médine, à 150 km au nord de Médine. C'est parce que lui, dans son livre, il parle de beaucoup de choses, il ne parle pas que de Médine. Donc il parle de tachir, de cette coutume. Il dit ça, ça a été fait par la jahiliyad pour deux villes qu'on considérait qui rendait malade. La ville de Khaybar, dès qu'on s'approchait de la ville de Khaybar, les gens, ils se mettaient à brer 10 fois, comme un âne, pour s'immuniser et se protéger de la maladie de Khaybar. بحذاء خيبر وطيبة آتيهما. الطيبة سي كوا؟ سي مدين، سي ان دي سورنوم دو لا فيل دو مدين، طيبة وطيبا آتيهما. Et la ville, et également pour la ville de Taïba, la ville de Médine, lorsqu'on s'en approche, il leur demandait de brer 10 fois pour s'immuniser contre sa maladie et être protégé. Ouais, aujourd'hui, les gens ils font des vaccins. Avant, il suffisait de brer 10 fois. Non. Atihima liyaslama bidhalika at-ta'shiri min wabahima, afin que soit immunisé et protégé avec ce c'est dit vraiment celui qui vient dans ces deux villes, Khaybar et Medina. Donc comme je vous ai dit, c'est quelque chose de répandu, de connu dans la ville, pour la ville de Yathrib qui devient la ville de Medina. Non. Alors quand on dit que l'ambiance de Médine où l'environnement de Médine rendait malade. Et quand dans ce hadith, Aïcha radiallahu anha, donc on reprend le hadith, elle nous dit Qadima, lamma qadima Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, lorsque le professeur Sam est arrivé à Médine, Wa'ika Bilal, Wa'ika Abu Bakr, Abu Bakr est tombé malade. Taïb, on a Abu Bakr qui est tombé malade. Wa'ika Bilal, et Bilal aussi est tombé malade. كان أبو بكر إذا أخذته الحمى. Et Abu Bakr, lorsqu'il était pris par la fièvre, donc déjà on connaît le symptôme de cette maladie, c'est que les gens ils sont pris de température, ils sont pris par la fièvre. Et c'est une chose que d'être malade, c'est une chose que d'avoir mal à un membre de son corps, mais être pris d'une forte fièvre, c'est quelque chose d'autre. Quand tout le corps fait de la fièvre, c'est quelque chose de très difficile. طيب. Et tout le monde est à même de le comprendre. Je suppose que tout le monde a déjà fait de la fièvre dans sa vie. Donc il dit, elle dit à Avouane que lorsque Abu Bakr était pris par cette fièvre de Médine, donc à ses tout débuts, كان يقول, il avait l'habitude de dire quand il sentait la fièvre arriver, كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. كل امرئ, chaque personne, مصبح في أهله, se réveille le matin parmi sa famille. Il se réveille le matin et il est dans sa famille. وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكٍ عَلِهِ, alors que la mort est plus proche de lui que ne le sont ses chaussures. C'est-à-dire que tout le temps la mort elle est très proche de nous. Tout le temps la mort est plus proche de nous que ne le sont nos propres chaussures. Mais lorsqu'il tombe malade, Abu Bakr, et surtout lorsqu'il va tomber malade ses premiers jours d'arrivée à Médine, et que cette forte fièvre va le prendre, évidemment ça lui rappelle la mort. Donc c'est pour dire que cette maladie elle est tellement grave que les compagnons pensent qu'ils ne s'en sortiront pas. Et comme on va le voir aussi avec Bilal. Donc c'est vraiment une maladie yani, forte. Et à un tel point qu'il dit « كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه » Chaque personne se réveille le matin, bien, bikhir, tranquille, tout va bien, alors que la mort est plus proche de lui, il s'en rend pas compte, mais la mort est plus proche de lui que ses propres chaussures. Et lui, il le dit, il s'en rend compte maintenant pourquoi ? Parce qu'il tombe malade. Parce qu'il est pris par cette grande maladie qui peut même peut-être l'emporter. Ensuite, Aïcha radiallahu anha nous dit, وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمَّى. Lorsqu'il était pris de la fièvre de Médine et qu'ensuite elle s'en allait. Lorsqu'enfin il était un peu soulagé de cette fièvre, il élevait le ton de sa voix en disant Ala layta shi'ri hal abitanna layla biwadin wa hawli idkhirun wa jalilu wa hal aridan yawman miyaha majinna wa hal yabdu li shamatun wa tafilu. Ala layta shi'ri, donc il dit Ala layta shi'ri hal abitanna layla, si seulement je pouvais encore connaître, vivre une seule nuit biwadin, dans une vallée, wa hawli ifkhirun wa jalilu, si seulement je pouvais vivre encore Parce que cette fièvre qui vient de partir, elle lui fait rappeler que peut-être il peut mourir à n'importe quel instant. Et on voit ici la position d'Abu Bakr, la position de Bilal, quand ils sont touchés d'une fièvre, ils se rappellent de quoi? De la mort. Quelle que soit leur situation, ça leur permet de leur rappeler, de se rappeler d'Allah, de méditer. Et ici, la maladie, elle leur rappelle la mort. Elle leur rappelle que même si d'habitude tout va bien, il se peut que d'un moment à un autre, ils puissent partir. Et donc Bilal, il dit, si seulement je pouvais connaître encore une nuit dans une vallée et autour de moi, il y aurait Ivrir et Jalil. Ivrir et Jalil sont deux noms de sortes de plantes et de végétation qui sont très très abondants. Où ça? Dans la vallée. Il parle de quelle vallée? Dans la vallée de la Mecque. Parce qu'ils ont dû tout quitter, ils ont dû quitter leur ville, la Mecque, et ils sont à Médine. Et donc cette maladie à Médine, elle leur rappelle qu'ils peuvent mourir à Médine, sans jamais revoir la Mecque. Et c'est pour ça qu'il dit, si seulement je pouvais vivre encore une seule nuit dans cette vallée autour de moi, il y aurait ces deux végétations qui abondent là-bas dans cette vallée de la Mecque, les plantes de Ivrir et les plantes de Jalil. Wahal aridan yawman miyah majinna. Et si encore un jour je pouvais boire de l'eau de Majinna. Majinna, ce sont des puits, des sources d'eau, pas loin de la Mecque. Wahal yabdu li shamatun. Et si seulement encore une seule fois je pouvais voir Shama et Tafil. Shama, c'est une montagne, et Tafil aussi, c'est le nom d'une montagne, qui sont à côté de la Mecque. Non. Tout ça pour dire que Bilal, l'exemple que nous donne Aïcha, c'est celui de Bilal et d'Abu Bakr, qui tombent malades. À tel point que Aïcha, au début, elle est étonnée de la parole de son père quand il est pris par cette fièvre. Parce qu'elle lui demande comment tu te sens, est-ce que ça va? Elle voit que ça n'a pas l'air d'aller. Est-ce que ça va? Kayfa tajiduk? Ya abati kayfa tajiduk? Ô père, comment vas-tu? Et elle lui répond, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mawtu adna min shirakin alayhi. Chaque personne se réveille le matin dans sa famille et la mort est plus proche de lui que ses chaussures. Dans une autre version, on rajoute, on nous dit que Aïcha l'aurait dit, je me suis dit, quand je lui ai demandé comment ça va, il me répond la mort, je me réveille le matin et la mort est très proche. Elle a dit, je me suis dit, je me suis dit, par Allah, mon père ne sait plus ce qu'il raconte. Parce qu'elle ne comprend pas ses propos, quel rapport? Wallahi ma yadri abi ma yaqul. Fadanautu min Amir ibn Fuhayra. Elle dit alors, comme j'ai vu que d'une certaine manière mon père Abu Bakr disait ça, Bilal il disait d'autres choses, elle a dit, pour en avoir le cœur net, je me suis rapproché de Amir ibn Fuhayra. Vous vous rappelez de Amir ibn Fuhayra? Amir ibn Fuhayra, c'est un ancien esclave qui avait été libéré comme Bilal par Abu Bakr. Il était torturé à la Mecque, il était libéré par Abu Bakr parce qu'il était torturé parce qu'il s'était converti à l'islam, et Abu Bakr y a acheté sa libération pour qu'il puisse enfin être soulagé des supplices et des tortures que le faisaient subir les notables et polythéistes mécois. Et c'est aussi lui qui va jouer un grand rôle dans la hijra, dans l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il prendra les moutons d'Abu Bakr et il le fera passer sur les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur les traces du fils d'Abu Bakr qui vient tous les soirs, toutes les nuits à la grotte de Thawr pour leur donner des informations sur ce qui se passe à la Mecque, parce que les Mécois sont en train de pourchasser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aussi lui, Amir ibn Fuhayra, qui va accompagner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et le guide Abdullah ibn Urayqit lorsqu'ils vont partir pour Médine. Il va les accompagner pendant cette hijra, pendant ce voyage. Donc, Amir ibn Fuhayra, lui aussi, quand il vient d'arriver à Médine, Aïcha dit, pour en avoir le cœur net, je me rapprochais de Amir ibn Fuhayra, elle dit qabla an yudraba alayna al-hijab, elle le précise. Amir ibn Fuhayra, d'une certaine manière, il fait comme s'il fait partie de la famille, il a été libéré par Abu Bakr et il vit avec eux. Et elle dit, je me rapprochais de lui pour lui demander à lui, et elle précise, avant que le hijab ne devienne obligatoire. Parce que Aïcha, quand elle comprend le hijab, c'est pas juste elle comprend le hijab comme quelque chose qu'il faut mettre sur la tête et se couvrir, elle comprend le hijab comme étant, il y a des distances aussi à prendre avec les hommes qui ne sont pas de notre famille. Et donc, à un tel point que toutes les épouses du professeur Sam, même si ce n'est pas obligatoire, selon la majorité des savants, ce n'est pas du tout obligatoire de couvrir le visage. Les épouses du prophète sallam, quand le hijab, l'ordre du hijab va descendre, elles se couvriront carrément le visage. Et à partir de ce moment-là, les seuls moments où elles ne se couvriront pas le visage, c'est pendant la umra ou le pèlerinage. Il y en a parmi les rites de la umra et du pèlerinage, c'est qu'il est déconseillé pendant la umra et le pèlerinage aux femmes de se couvrir le visage. Elles doivent laisser découvrir le visage. Non. Ala kulli hal, donc elle dit avant que l'ordre du hijab ne soit révélé. Et je lui disais, Kayfa tajidouk? Et toi, Amir, comment ça va? Parce qu'elle veut être rassurée, c'est mon père qui raconte n'importe quoi. Et lui, il lui répondait, donc en fait, il suivait les mêmes rimes que Abu Bakr. Abu Bakr a dit, Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi, wal mawtu adna min shiraki na'lihi. Et lui, pour montrer qu'il est comme Abu Bakr et qu'il lit la même chose, il suit avec les mêmes rimes et il dit لقد وجدت الموت قبل ذوقه. لقد وجدت الموت قبل ذوقه. إن الجبان حتفه من فوقه. كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي نفس كالثور يحمي جسمه بروقه. نعم. Et ça c'est aussi une habitude qu'avaient certains poètes à l'époque. Ils se répondaient avec les mêmes rimes. D'une certaine manière, ils se lançaient des défis. Le premier va faire une rime avec une lettre bien précise de rime, et l'autre, il doit répondre, donc il doit improviser avec les mêmes rimes à la fin. Et après lui-même, il doit réimproviser, répondre, jusqu'à ce qu'un des deux n'y arrive plus à trouver quelque chose. Et bien sûr, il faut qu'il y ait le même nombre de syllabes, etc. La poésie, c'est pas juste tu dis une phrase avec la même rime à la fin, c'est plus ou moins facile. Il faut qu'il y ait le même nombre de syllabes dans chaque phrase, dans chaque rime, et il faut l'improviser. Jusqu'à ce que la personne elle bloque, ça veut dire que l'autre qui n'a pas bloqué, c'est le plus fort en poésie. C'était une sorte de duel qu'il faisait. Et ici, Amir ibn Fuhayra, on voit qu'il a utilisé, entre guillemets, cette astuce pour montrer à Aïcha qu'il est le père, P-A-I-R, et l'égal d'Abu Bakr dans cette situation. Lui aussi, il comprend de quoi il parle Abu Bakr, parce que lui aussi, il est touché par cette épidémie, cette maladie de Al-Madina. Et donc, il dit... لقد وجدت الموت قبل ذوقه. J'ai trouvé la mort avant même de l'avoir goûté. C'est-à-dire, je suis vivant, j'ai pas encore goûté à la mort, et pourtant je sais c'est quoi la mort, parce que cette maladie elle est tellement douloureuse qu'on se dit c'est fini, je vais mourir. Et donc on est dans la situation de quelqu'un qui est en train de mourir, pourtant on m'en guérit, donc j'ai trouvé la mort sans l'avoir goûté. Voilà ce qu'il dit dans cette rime. لقد وجدت الموت قبل ذوقه. J'ai trouvé la mort avant même de l'avoir goûté. لقد وجدت الموت قبل ذوقه. إن الجبان حتفه من فوقه. Que le lâche sache que sa faim est au-dessus de sa tête. Celui qui est lâche et qui a peur, hein, c'est le lâche qui a peur. Il a peur de mourir, il a peur de ceci, il a peur que telle chose lui arrive. Qu'il sache que la mort elle est juste là, au-dessus de sa tête. إن الجبان حتفه من فوقه. كل امرئ مجاهد بطوقه. Chaque personne fait ses efforts et résiste avec ce qu'il peut comme bouclier, comme protection. كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي نفسه بروقه. Comme le taureau ou le bœuf, il protège son corps comment? Avec son museau. Et comme ça, avec ses cornes ou avec son museau, avec sa tête. Pourtant, c'est son corps qui est le plus fort. Il est plus fort que son museau. Mais c'est comme ça, c'est instinctivement. Pour pas que tu touches son corps, il va venir comme ça avec sa tête. Et l'être humain est comme ça, face à la mort. C'est la comparaison qu'il fait ici à Amir ibn Fuhayra pour faire comprendre à Aïcha radiallahu anha que lui aussi, il sait de quoi parle Abu Bakr. D'ailleurs, on a même des versions authentiques qui nous disent que Aïcha radiallahu anha elle-même tombera malade à Médine lors de son arrivée à Médine. Donc c'est vraiment quelque chose, comme on a dit, qui était connu, répandu pendant la Jahiliya, et que les compagnons vont vivre. Les exemples qu'on a donnés, c'est celui d'Abu Bakr, celui de Bilal, celui de Amr ibn Fuhayra, celui-même de Aisha radiyallahu anha. Donc elle nous dit, après la parole de Bilal, dans une autre version, donc Bilal y a dit ce qu'il a dit, je vous ai cité les paroles, et dans une autre version, il rajoute. Donc Bilal, qu'est-ce qu'il dit Bilal? Lui, il parle de son amour et son désir de retrouver la Mecque. Hein, quand tu es touché par une maladie dans une ville et tu te rappelles ta santé dans l'autre ville et que c'était une belle ville et c'est ta ville natale et tu l'aimais cette ville. Donc c'est de ça qu'il parle Bilal. Quand il dit Ala layta shi'ri hal abitanna layla, si seulement je pouvais vivre encore une seule nuit. Biwadin wa hawli Idkhirun wa Jalilu. Dans une vallée, en parlant de la vallée de la Mecque, dans laquelle les végétations de Idkhir et Jalil abondent. Wahal aridan yawman miyah majinna. Et si seulement je pouvais boire encore une seule fois des puits de Majinna qui sont proches de la Mecque. Wahal yabdu li shamatun wa tafil. Et si seulement je pouvais voir encore une seule fois les deux montagnes, Shama et Tafil. Aïcha, dans une autre version, nous dit qu'il rajoutait aussi, Bilal, après avoir dit ça, Allahumma l'an Utbat ibn Rabi'a. Oh mon Dieu, maudit Utba ibn Rabi'a. C'est qui Utba ibn Rabi'a? C'est un des chefs de la Mecque, un des notables polythéistes de la Mecque qui faisait souffrir les musulmans, qui les torturait, qui leur faisait la guerre par tous les moyens. Allahumma l'an Utbat ibn Rabi'a wa Shaybat ibn Rabi'a. Oh mon Dieu, maudit Utba ibn Rabi'a ainsi que Shayba ibn Rabi'a. Shayba ibn Rabi'a, c'est le frère de Utba ibn Rabi'a. Tous les deux, ils avaient une hostilité sans limite à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à l'égard des musulmans. Mais imaginez Bilal qui se retrouve à Médine, une ville qui lui fait mal, qui lui fait mal dans tous les sens du terme. Liana, c'est pas chez lui. Même s'ils vont apprendre, comme vous allez le voir, ils vont apprendre à aimer plus que tout cette ville à un tel point que quand ils auront l'occasion de retourner à la Mecque, ils n'y retourneront pas. Ils finiront leur jour à Médine, ils vont y rester. Même le professeur Sam lui-même. Même les gens s'étonneront. Mais c'est bon, tu as libéré la Mecque maintenant. Médine. Non. Pourquoi? Parce que justement, le professeur Sam, à cause de cette maladie qui est propagée à Médine, il va faire une invocation qui sera exaucée par Allah. Et tous ceux aujourd'hui qui vont... tous ceux qui en témoignent, qui partent et qui témoignent quand ils font la Umrah, qui visitent donc la Mecque et Médine, tous reviennent avec le même yarn. C'est pas qu'ils détestent la Mecque, bien évidemment que non. Tout le monde aime la Mecque, subhanallah. Mais il y a quelque chose de spécifique avec la ville de Médine. Il y a un attachement spécifique à la ville de Médine. Elle procure une certaine sérénité, un certain repos que les autres villes ne procurent pas. Non. Et ça, c'est par rapport, comme on va le voir tout à l'heure, l'invocation que le Prophète va faire. En tout cas, Bilal dit Allahumma al'an Utbat ibn Rabi'a wa Shaybat ibn Rabi'a. Et il n'oublie pas, évidemment, son ancien maître qui l'avait torturé de ses propres mains, wa Umayyat ibn Khalaf. Qad akhrajuna ila ardi al-waba. Kama akhrajuna ila ardi al-waba. Comme ils nous ont fait sortir, ils nous ont expulsés vers la ville de la maladie. Parlons de Médine, vers la ville qui nous rend malade. Kama akhrajuna ila ardi al-waba. Donc quand il tombe malade dans cette ville, c'est ce que ça lui rappelle. C'est à cause de ces gens-là qu'il est là et qu'il est malade. C'est eux qui ont causé ça. Donc, ô Seigneur, maudis-les. Non. Mais le professeur Sam, lui, avait une autre manière de faire. Il ne critiquait pas la ville de Médine, même si c'était une ville qui rendait malade. Et il ne profitait pas de l'occasion pour maudire ceux qui en étaient la cause. Donc Aïcha, justement, elle raconte, elle dit Faji'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa'akhbartu. Je suis retourné voir le professeur sallam et je lui ai raconté, je lui ai dit Abu Bakr est malade et voilà ce qu'il a dit. Bilal est malade et voilà ce qu'il a dit. Et il a maudit, etc. Faqala Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Le professeur sallam m'a dit Allahumma habib ilayna al-Madina. Ô Seigneur, fais-nous aimer al-Madina. Attention, le professeur Hassan fait une dua. Et quand le professeur Hassan fait une dua, Allah Azza wa Jal l'exauce. Il a dit Allahumma habib ilayna al-Madina. Le professeur Hassan ne veut pas entendre ce qu'il entendait avant, dans la jahiliya. Awba'u ardillah. Le compagnon il raconte, il dit Qadimna al-Madina wa hiya awba'u ardillah. Nous sommes arrivés à Médine et c'était la ville la plus malade. Le professeur Hassan ne veut pas entendre ça, il ne veut pas dire ça. Et il ne veut plus que ça se reproduise. Et pour que ça ne se reproduise plus, il faut que les gens arrivent à aimer Médine. Et la meilleure façon de le faire, c'est qu'Allah Azza wa Jal mette dans ton cœur l'amour de Médine. Si Allah Azza wa Jal prend ton cœur et il met dedans l'amour de quelque chose, tu ne peux rien faire contre. C'est le coup de foudre, comme ils disent. Aïe, quand la foudre elle te tombe sur la tête, c'est fini. Aïe, non. Donc, Allahumma habib ilayna al-Madina. Ô Seigneur, fais-nous aimer al-Madina. كحبنا مكة أو أشد. comme nous aimons la Mecque, ou même plus encore, d'un amour encore plus fort. D'un amour encore plus fort que l'amour que nous portons pour la Mecque. Ça va se passer ou ça va pas se passer? Ça va se passer, comme on a dit, le professeur Salim lui-même, les compagnons comme Abu Bakr, Omar, la Mecque c'est leur ville qu'ils aimaient, dans laquelle ils ont grandi, ils ont tout fait pour y retourner, pour la libérer. Et quand ils l'ont libérée, qu'ils ont pu y retourner, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis terminer leur jour à Médine. Donc cette dua a été exaucée. Fais-nous aimer Médine comme nous aimons la Mecque, et bien plus encore. Ou achad. Kahubbina makkata, ou achad. Wasahaha. Et fais-en une ville de la santé. Donne-lui, fais-lui propager la santé. La forme. Ah, donc tout l'inverse, d'un extrême à un autre. Wasahaha. وبارك لنا في مدها وصاعها. Et mets la bénédiction dans le mud et dans le sa'. Le mud, c'est les... Parce qu'avant, il y avait les outils de mesure. C'était comment les outils de mesure? Aujourd'hui, il y a les kilos, il y a le... Mohim, on a les pour peser, etc. Avant, les gens, ils faisaient avec les moyens du bord. Les moyens du bord, c'est qu'on appelait, par exemple, le mud. Prenez une poignée ou deux poignées, on appelait ça mud. Il y avait, entre guillemets, mud de l'Madina, c'était les poignées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que chacun, il y a des gens, ils ont des grandes poignées, et ils ont des toutes petites poignées, donc il peut y avoir de l'escroquerie. Donc on prenait la poignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on avait pris cette mesure-là dans un récipient, et ça faisait autant. Ça, c'est l'outil de mesure. C'est pour ça que même le fuqaha, après, quand il parle de zaka, etc., il parle des mud et des sa'a. Sa'a, c'est quatre poignées. Il regarde, et quelquefois, il n'y avait pas les mêmes mesures. Muddu Ahli al-Iraq, c'est pas Muddu Ahli al-Madina, c'est pas Muddu Ahli Makkah. Le mud, la poignée de Médine, est différente de la poignée des gens de la Mecque. Elle est différente en Irak. Et par contre, aujourd'hui, alhamdoulilah, les savants, ils ont transformé et converti tout ça en kilos, donc on parle qu'en kilos, comme ça on s'embrouille plus. Mais avant, c'était très compliqué. Parce qu'il y a des savants qui parlaient en mud, mais ils parlaient en mud, en poignée de chez eux. C'était pas la même mesure que la poignée de Médine ou la poignée de la Mecque, etc. Ala kulli hal, donc ces outils de mesure, quand tu prends une poignée, t'as combien? T'as une poignée, t'as pas plus, t'as pas moins. Mais le professeur sallam, il dit quoi dans la dua? Allahumma barik lana fi muddiha wa fi sa'iha. As-sa', c'est l'équivalent de quatre poignées. Oh mon Seigneur, mets la bénédiction dans le mud et dans le sa'. C'est-à-dire que même s'il y a un peu, quelqu'un il vient à Médine, il y a un peu, il y a dedans la baraka, la bénédiction. Et donc avec ce petit peu, il peut faire beaucoup. Parce que les gens se plaignaient aussi, comme on le verra plus tard, de la difficulté de la vie à Médine. C'est une ville, contrairement à la Mecque, qui ne donnait pas beaucoup de richesses. À part les dattes, elle a toujours été connue pour les dattes, elle ne donnait pas beaucoup. La Mecque, elle donnait beaucoup, que ce soit en dattes, que ce soit en animaux, que ce soit en marchandises, en tapis, etc. Parce que c'était une ville vraiment cosmopolite, une ville de commerce, tous les gens y venaient de loin pour faire le commerce. Médine, non. Donc les gens, ils ne vont pas s'habituer comme ça à la vie de Médine, où elle donne très peu en ressources. Alors le professeur Sam, il dit Allahumma barik fi muddiha wa sa'iha. Il ne dit pas fais en sorte qu'il y ait plein de choses à Médine. Non. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir beaucoup. Ce qui compte, c'est que si même si tu as un peu, ça te suffit amplement. C'est ça qui compte. C'est de savoir se contenter de peu. Ou alors que le peu, Allah Azza wa Jalla, il a mis dedans la bénédiction, la baraka, à tel point qu'elle te suffit. L'autre, il a beaucoup plus que toi, mais il ne s'en sort pas. Il lui reste une semaine avant la fin du mois, il n'y a plus rien. Pourtant, il gagne beaucoup plus que toi. Toi, tu gagnes peu, beaucoup moins que lui. Mais alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla met la baraka dans ce que tu as. À la fin du mois, il te reste encore un petit peu de quoi mettre de côté. C'est ça la baraka. Et le musulman, il doit rechercher la baraka. Et la première façon de rechercher la baraka, c'est d'implorer Allah Azza wa Jalla pour avoir cette baraka. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il conseillait tout le temps ça. Il le conseillait tout le temps. Une fois, il a entendu le compagnon. Dans un hadith authentifié par l'Albani, il a entendu les compagnons, il parlait entre eux de la vie d'ici-bas. Ah, il y a des choses de la vie d'ici-bas, voir ceci. Comme nous, ça peut nous arriver, telle voiture de telle marque, hein, ou là les maisons, ou là ceci, ou là cela. Et on parle entre eux, ah, ceci, cela, moi j'aimerais acheter ça, j'aimerais avoir ça, j'aimerais. Enfin, ça, une fois, il a entendu les compagnons comme ça. Bon, à l'époque, c'était pas les voitures, c'était la belle chamelle rousse, ou là ceci, ou là. À la couleur. Chacun son époque et chacun son type de richesse. Le professeur sallam, il a dit, yani comme pour vraiment les rappeler à l'ordre. Ala tasma'oun. Ala tasma'oun. Inna al-badhadata min al-iman. Inna al-badhadata min al-iman. N'entendez-vous pas? N'écoutez-vous donc pas? La bavada fait partie de la foi. La bavada, c'est quoi? C'est ce que les savants ont appelé at-taqahul. Vous allez me dire, oh, mais c'est quoi at-taqahul? At-taqahul, c'est le fait de vivre, y aller vraiment de peu. Quand tu vois la personne, comment il est habillé, c'est pas qu'il est sale. Parce que le musulman, il doit rester propre. Mais yani, tu vois pas dans sa façon de s'habiller, yani, il y a la simplicité. Il reste simple. Il ne se lève pas au-dessus des gens, il n'est pas en dessous des gens. Il est simple. Le professeur me dit, la simplicité fait partie de la foi. La simplicité fait partie de la foi. Avoir, même si tu as les moyens, tu te contentes de ce qui est dans la moyenne. Et les compagnons comme Omar ibn al-Khattab nous conseillaient même de faire semblant d'avoir peu. Pas de faire semblant de mentir, mais même quand on a beaucoup, de ne pas profiter de tout ce qu'on a. De temps en temps, vivre avec très peu, de s'habituer, nous, nos femmes, nos enfants, avec très peu. Il disait, « Irshaw shino, fa inna ni'mata la tadoum. » Yani, « Irshaw shino, faites les pauvres, faites les miséreux, les misérables. » Parce que les bienfaits, les privilèges ne durent pas. Un jour ou l'autre, tu perds tout. Un jour ou l'autre, tu perds tout. Non. Et ça, ne se rend compte de ça que celui qui a tout eu et qui du jour au lendemain, il a tout perdu. Il a tout perdu. Ça me rappelle un poème très connu de Abu al-Baqa al-Rindi, un grand poète andalou. On ne connaît pas cet homme, personne ne connaît cet homme. On ne connaît pas beaucoup grand-chose de sa biographie à part l'époque où il a vécu. La seule chose qu'on connaît de lui, c'est ce poème qu'il a fait. On sait que c'est un poète qui a fait plein de poèmes. La seule chose qu'on connaît de lui, il reste célèbre aujourd'hui, c'est ce poème. Parce que ce poème, il l'a fait à l'occasion de ce que les catholiques appellent la Reconquista, la reconquête de l'Andalousie. Quand ils ont repris les villes andalouses. Il a fait dedans, Ikhwani, un poème. C'est pas possible d'avoir un minimum de foi, de lire ce poème, et de ne pas avoir au minimum le cœur brisé, et au maximum d'en pleurer toutes les larmes de son corps. Parce qu'il décrit avec des rimes dans ce poème comment lui, qui a dû fuir l'Andalousie, parce que pourchassé par les rois catholiques, qu'est-ce que c'était l'Andalousie musulmane, comment il l'a connue, et qu'est-ce qu'elle est devenue au moment où il l'a perdue, lui, en tant que poète. Et il commence ses rimes juste en disant « لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا مَا تَمَّ نُقْصَانُ فَلَا يُغَرُّ بِطِيبِ الْعَيْشِ إِنْسَانُ هِيَ الْأُمُورُ كَمَا شَاهَدْتُهَا دُوَلٌ من سره زمن ساءته أزمان لكل شيء إذا ما تم نقصان. Chaque chose, quand bien même elle est parfaite et complète, elle a sa carence. Pourquoi? Parce qu'il parle de l'Andalousie. L'Andalousie, les musulmans ils l'appelaient comment? Et même les non-musulmans ils l'appelaient comment? Firdaus al-Ard, le paradis de la terre. Parce qu'il y avait dedans la science, il y avait dedans les richesses, il y avait dedans les fruits, il y avait dedans le paysage, il y avait dedans. Personne ne se plaignait de vivre en Andalousie. Tout le monde cherchait à vivre en Andalousie. Tout le monde. Des gens sont venus de Cham, de Syrie, pour vivre en Andalousie. À un tel point que la ville de Ishbilia, Séville, les Andalous, ils ne l'appelaient pas Séville, ils ne l'appelaient pas Ishbilia. Ils l'appelaient Hims al-Andalus. Le Hims de l'Andalus. Hims, c'est une ville en Syrie. Mais cette ville était tellement habitée par des gens qui venaient de Syrie, tellement l'Andalousie était convoitée pour y vivre, qu'on l'a appelé Hims al-Andalus. Il dit, chaque chose, quand bien même elle est complète et parfaite, elle a sa carence. Qu'aucun individu donc ne soit dupé et trompé par la douceur, le délice de vivre, la douceur de vivre. Quand bien même tout se passe bien, parce que lui a connu ça en Andalousie. Aucun danger, aucune menace, tout allait bien. Les musulmans avec les juifs, avec les chrétiens en Andalousie, la richesse, personne ne se plaignait de quoi que ce soit. Et donc ils ont oublié la menace, c'est ça qu'il veut dire. Et du jour au lendemain, ils ont tout perdu. Fala yugharru, que ne soit pas dupé et trompé par la douceur de vivre, insano, n'importe quel homme. Hiya al-umuru kama shahadtuha duwalun. Ainsi vont les choses. C'est une affaire d'alternance comme je l'ai moi-même vécu. C'est-à-dire, nous, on était bien, et aujourd'hui, on est des réfugiés au Maghreb. On est des réfugiés au Maghreb. Aïe, ouais. Les choses allaient bien, mais c'est une affaire d'alternance. Une fois ça va, une fois ça va pas. Mais ça, il vient de le comprendre que quand c'est trop tard. S'ils l'avaient compris avant, quand tout allait bien, ils auraient pu préserver l'Andalousie parce qu'ils auraient fait les causes. Mais ils pensaient que tout allait bien, donc tout irait toujours bien. Celui qui est réjoui par une époque sera déçu par bien d'autres époques. Quand bien même tout va bien dans une époque, n'oublie pas que dans bien d'autres époques, ce sera peut-être pire. Non. Et ensuite, il parle dans ses rimes des villes andalouses qui sont tombées les unes après les autres. Fasal balan siyatan ma sha'nu mursiyatin wa aina himsun wa am aina jayyan. Demande à Balansiya. Balansiya, c'est quelle ville? Valence. Ma sha'nu mursiyatin. Demande à la ville de Valence qui a été perdue. Qu'est-il advenu de la ville de Mursiya? Mursiyatin. Am aina Himsun am aina jayyan? Ou plutôt, où est Hims en parlant de Séville? Et où est Jayyan? Jayyan, c'est Khaïn, la ville de Khaïn. Et il cite après comme ça dans toutes ses rimes plein de villes. Et les savants, après il va citer la ville de Qurtuba et les savants de Qurtuba. Et il termine par expliquer les viols des filles. Les hommes qui sont réduits à l'esclavage. Et la dernière rime, il dit لِمِثْلِ هَذَا يَذُوبُ الْقَلْبُ مِنْ كَمَدٍ إِنْ كَانَ فِي الْقَلْبِ إِسْلَامٌ وَإِيمَانٌ لِمِثْلِ هَذَا يَذُوبُ الْقَلْبُ مِنْ كَمَدٍ إِنْ كَانَ فِي الْقَلْبِ إِسْلَامٌ وَإِيمَانٌ. Pour cette histoire-là et pour des choses comme ça, doit fondre un cœur de peine. Il doit fondre de peine. Le cœur, il doit fondre tellement il est peiné. Si, à condition, إِذَا كَانَ فِي الْقَلْبِ Islam ou iman. Si dans ton cœur il y a un peu d'islam et un peu de iman, un peu de foi. Je vous conseille vraiment de le. Vous pouvez le trouver en français, ça s'appelle la traîne de Séville. T-H-R-E et accent aigu, le N-E. La traîne de Séville ou l'oraison funèbre de Séville, de Aboul Baqa Ar-Rindi. Son nom c'est Aboul Baqa Ar-Rindi. Pourquoi Ar-Rindi? Parce qu'il vient de la ville andalouse Ronda. Elle existe encore cette ville. C'est une des dernières villes avant le royaume de Grenade qui a été prise par les rois catholiques. Et c'était une des villes avant la ville de Grenade la plus difficile à prendre. Parce que c'est une ville sur les hauteurs, et il y avait des remparts, etc. Et les chrétiens n'ont pas pu la prendre. Le seul moyen qu'ils ont réussi à faire pour la prendre, c'est d'assiéger la ville jusqu'à ce qu'au bout de 8 mois, les habitants de la ville de Ronda n'avaient plus à boire ni à manger. Puisqu'il n'y avait plus personne ne sortait, plus rien ne sortait ni ne rentrait. Naam. Et donc ils ont été obligés de livrer la ville. Et lorsque les catholiques sont rentrés dans la ville de Ronda, ils ont massacré 4000 hommes sur la place de la ville de Ronda. Cette place qui aujourd'hui porte la ville, parce que les Espagnols malgré tout ils ont quand même laissé certaines traces, porte toujours la ville, la Plaza de Abu Bekaa, ils l'appellent. En parlant de ce poète, Abu Bekaa Ar-Rindi. Ala kulli hal. Je reviens donc à ce qu'on disait. Le prophète sallam a fait une invocation et on va terminer là-dessus. Le prophète sallam a dit Allahumma habibha, Allahumma habib ilayna al-Madina. Oh mon Seigneur, fais-nous aimer la ville de Médine. Kahubina makkata ou ashad. Comme nous aimons la ville de la Mecque ou même plus encore. Allahumma sahiha. Oh mon Seigneur, mets dedans la santé, la forme. Wa barik lana fi muddiha wa sa'iha. Aimez dans ses outils de mesure, dans le peu qu'il peut y avoir, met la bénédiction dedans. Dans le mud et le sar, met la bénédiction. La baraka dans ce que contient la ville de Médine. Wa barik lana fi muddiha wa sa'iha. Na. Wanqul hummaha faj'alha bil ju'fa et éloigne d'elle la fièvre. Éloigne, parce que le principal symptôme de sa maladie, c'est quoi? La fièvre. Éloigne d'elle la fièvre et mets-la plus loin. À un endroit qu'on appelle Al-Juhfa. D'ailleurs, on a un autre hadith qui est rapporté par le Bukhari et Abu Daoud, dans lequel le compagnon Ibn Omar nous dit que le prophète sallam a vu en rêve. Il dit Ra'aytu fil manami imra'atan tha'irat al-ra's. Kharajat min al-madinati hatta nazalat mahya'a. Wa mahya'a hiya al-Juhfa. Hatta nazalat mahya'a. فتأولتها وباؤها نقلت إليها. Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, j'ai vu en rêve une femme avec les cheveux à l'air. Je l'ai vue en rêve, elle est sortie de Médine. Elle a fui, elle s'est échappée en courant, elle est partie, elle a couru jusqu'à ce qu'elle arrive à Mahia. Et Mahia, c'est le Jurfa, la ville où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'invocation, renvoie la fièvre là-bas, dans un endroit qui est peu habité, yani désertique. Et il dit, et je l'interprète de cette manière, je pense que cette femme représentait la maladie de Médine qui, et Allah Azza wa Jalla a exaucé notre invocation, il a envoyé cette maladie à la Mahia. D'ailleurs l'imam al-Khattab dit, en parlant de cela, il dit Stajab Allahu du'a à Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla a exaucé la du'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a mis jusqu'à aujourd'hui cette maladie dans cet endroit qu'on appelle Jurfa. Il dit à un tel point que les personnes qui passent par là et qui boivent dans les sources de cet endroit-là ou dans les puits de cet endroit-là sont pris de la fièvre. Il dit même les oiseaux qui volent, qui font que passer par là, ils ont la fièvre. Ala kulli hal, cette dua nous fait poser une question. Dans cette dua, le professeur Hassan a dit ô Seigneur, fais-nous aimer la ville de Médine. Allahumma habib ilayna al-madinata. Fais-nous aimer la ville de Médine comme nous aimons la Mecque ou plus encore. Est-ce que ça veut dire que Médine va devenir meilleure que la Mecque ou la Mecque est meilleure que Médine? Ça, c'est une question à laquelle on tentera de répondre la fois prochaine. Bismillah et tabarakallahu ta'ala. Barakallahu fukum pour votre attention.